Côté Science.
Et pour commencer, le premier dossier cette semaine est consacré aux analgésiques et aux antidouleurs, avec deux études, Zoé, hein, deux études importantes parues cette semaine sur la question. Et tout d'abord, cette étude très alarmante menée par des chercheurs de l'Inserm qui révèle que la prise soutenue d'ibuprofène chez les hommes entraîne un important déséquilibre hormonal.
Cette étude publiée cette semaine dans la revue PNAS est née d'un constat: de plus en plus de jeunes hommes sportifs, athlètes de haut niveau bien sûr, mais pas uniquement, on parle aussi des amateurs, coureurs de marathon, qui prennent très régulièrement de fortes doses, hein, pas énormes mais fortes, d'ibuprofène en prévision de compétitions importantes. Or, le coordinateur de cette étude, il s'appelle Bernard Jégou, il est directeur de recherche à l'Inserm et directeur de la recherche de l'école des hautes études en santé publique. Il avait déjà montré lors de précédents travaux un déséquilibre hormonal important chez les fœtus mâles dont les mères avaient pris de l'ibuprofène. Pour comprendre ce qu'il en était chez l'adulte, il a réalisé un essai clinique qui impliquait 31 sportifs volontaires qui prennent quotidiennement deux comprimé de 800 mg d'ibuprofène par jour, et donc voici les résultats.
L'hypophyse produit une hormone qu'on appelle la LH. Et cette LH a pour fonction spécifique de stimuler la production de testostérone. Et quand, dans les conditions normales, la testostérone est en quantité insuffisante, eh bien la baisse des niveaux de testostérone induit une production accrue de LH. C'est ce qu'on appelle une boucle de régulation entre donc les testicules et l'hypophyse. Là, ce qu'on a observé, c'est que les niveaux de la LH étaient très très élevés dès 15 jours de cette prise d'ibuprofène, ce qui dénotait une situation où probablement, et expérimentalement on a pu le prouver, le testicule était à la peine pour produire la testostérone et solliciter beaucoup la production de LH. C'est ce qu'on appelle un hypogonadisme, hypo parce que le testicule a du mal à fournir sous l'influence de l'ibuprofène, compensé, hypogonadisme compensé, parce que l'hypophyse compense. Or ça, c'est un tableau clinique qui est observé chez environ 10% des hommes âgés et qui, s'il perdure, peut basculer dans ce qu'on appelle l'hypogonadisme primaire, c'est-à-dire que l'hypophyse n'arrive plus à suivre.
Bernard Jégou qui appelle donc les sportifs à cesser la prise soutenue d'ibuprofène sans réelle nécessité médicale et qui appelle surtout à développer la recherche sur notamment les femmes et les sportives.
Deuxième étude, celle-là moins inquiétante que la première, Zoé, sur la question de ces antidouleurs. Aux États-Unis, les chercheurs tentent de mettre au point des analgésiques opioïdes mais qui ne seraient pas addictifs ceux-ci.
En effet, il y a urgence, car aux États-Unis, la prescription de ces antidouleurs est passée de 70 millions au début des années 90 à 200 millions au début des années 2010. Les opioïdes qui interagissent avec au moins 4 récepteurs basés sur les cellules du cerveau permettent évidemment d'annihiler la douleur, mais entraînent aussi des effets secondaires qui vont de la nausée à l'hallucination jusqu'à la dépendance sévère ou la mort par dépression respiratoire. Aujourd'hui, la FDA estime que 90 Américains meurent chaque jour d'une surdose d'opioïdes. Donald Trump l'a déclaré. La crise des opioïdes, urgence sanitaire. L'étude publiée dans la revue Cell la semaine dernière présente une forme d'espoir, celui de développer bientôt des opioïdes sans dépendance ni effet secondaire. Brian Roth est neurobiologiste à l'Université de Caroline du Nord. Il y travaille grâce à la protéine kappa.
Le récepteur kappa est connu comme l'une des principales protéines qui interagit avec les opioïdes. On la connaît depuis les années 60-70. Et plusieurs médicaments, comme le pentazocine, l'un des opioïdes les plus prescrits, interagissent avec le récepteur kappa. Donc on l'avait identifié comme l'une des principales cibles des agents analgésiques. Mais on savait aussi que les médicaments qui interagissent avec kappa ont des effets secondaires, moins lourds que lorsque d'autres récepteurs sont impliqués, mais non négligeables, comme des hallucinations. La littérature scientifique de ces 15 dernières années a ensuite montré qu'il y a plusieurs voies de signalisation cellulaire activées par kappa au contact des opioïdes. Certains permettent la réduction de la douleur, d'autres causent les hallucinations. Notre but est donc de voir comment on peut dissocier ces deux activités. Et la meilleure façon de le faire était d'identifier la structure moléculaire de kappa. Nous y sommes parvenus et nous sommes capables de filtrer des milliers de composants par ordinateur pour mettre sur pied un analgésique ciblé, plus sûr et de manière bien plus rapide que si nous faisions des tests composant par composant au tube à essai et qui prendraient des mois.
En bref, un nouveau revers dans les traitements contre la maladie d'Alzheimer.
L'hydalopyridine, une molécule jugée prometteuse contre cette maladie, n'a pas montré l'efficacité escomptée au cours d'une série d'essais cliniques dont les résultats ont été publiés ce mardi dans le Journal of American Medical Association. Une semaine plus tôt, le géant pharmaceutique américain Pfizer avait annoncé qu'il mettait fin à ses recherches coûteuses sur la maladie d'Alzheimer pour utiliser les fonds sur d'autres maladies.
Stanislas Dehaene a été nommé à la tête du nouveau conseil scientifique de l'éducation nationale.
Ce psychologue cognitiviste, neuroscientifique français qui est déjà membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale sera d'ailleurs demain l'invité de Caroline Brouet dans les matins du samedi, à qui il parlera de sa vision du conseil scientifique de l'éducation nationale.
Et les problèmes de salinité dans la mer Noire à cause du réchauffement climatique.
Une étude qui est parue mardi dans Nature Communication révèle que les hydrates de méthane qui ont l'apparence, la consistance de la glace et qui cimentent les sédiments marins sont en cours de déstabilisation dans la mer Noire du fait de l'évolution de la salinité de cette mer Noire qui était un lac il y a encore 9000 ans, ce qui pourrait provoquer des importants glissements sous-marins.
Deuxième sujet cette semaine, le Parlement européen doit se prononcer la semaine prochaine sur le développement de la pêche électrique. Et deux ONG accusent la Commission européenne d'avoir manipulé des conclusions scientifiques sur cette question.
La pêche électrique qui est une pratique qui consiste à envoyer des décharges dans le sédiment afin de capturer plus facilement les poissons plats qui y vivent. Et donc méthode contre laquelle des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, Marielle de Sarnez se sont élevées dans une tribune publiée cet après-midi par Le Monde. La pêche électrique est interdite. Il faut le rappeler par l'Union européenne depuis 1998, mais des dérogations ont été accordées par la Commission européenne à partir de 2007. Et à l'époque, la Commission s'était appuyée sur l'avis circonstancié rendu par le Comité scientifique, technique et économique européen des pêches, que la Commission avait présenté comme favorable. Alors aujourd'hui, deux ONG, dont l'association Bloom, accusent en fait la Commission d'avoir falsifié cet avis, comme l'explique son directeur scientifique Frédéric Lemanac.
On a mis quand même quelques temps à trouver ce texte-là, et quand on l'a trouvé, on s'est rendu compte que c'était pas du tout les recommandations de ce groupe de scientifiques. Eux, ils étaient opposés à l'octroi de dérogation parce que, à l'époque, il y avait pratiquement pas de recherche qui avait été faite sur la pêche électrique. On savait déjà que ça avait des impacts colossaux parce que, par exemple, la pêche électrique est utilisée depuis des dizaines d'années pour capturer les poissons en eau douce, et on sait que ça a des impacts, par exemple, sur la survie des œufs ou sur les larves. Mais il n'y avait pas de recherche encore qui avait été faite dans le milieu marin. Donc eux, c'était vraiment avec un principe de précaution. Ils ont dit, on ne connaît pas l'impact de la pêche électrique dans le milieu marin, donc on est opposé à l'octroi de toute dérogation. Donc la Commission européenne, dès le départ, dès 2006, a eu une décision totalement corrompue en utilisant un avis scientifique détourné. Depuis, il y a par exemple des recherches qui ont montré que les cabillauds qui étaient capturés avec l'électricité avaient la colonne vertébrale fracturée et qu'ils avaient des hémorragies internes. Donc c'est quand même des chocs électriques qui sont assez importants pour arriver à briser la colonne vertébrale d'un poisson. D'autres études ont montré que les vers ou les crevettes avaient le système immunitaire qui était mis à mal et que donc ils étaient beaucoup plus sensibles à des virus ou à des bactéries qui vivent dans le sédiment. Donc on a quand même quelques études scientifiques dont les conclusions sont très négatives. Et ensuite, il y a tout un pan de recherche qui manque, puisque les seuls à faire de la recherche sur la pêche électrique, c'est les Néerlandais, puisque ce sont les seuls à pratiquer cette méthode de pêche. Et donc, ils vont pas faire de la recherche pour montrer que électrocuter un œuf ou électrocuter un juvénile, c'est négatif pour l'œuf ou le juvénile.
En bref, encore plus de glace que ce que l'on pensait sur Mars.
Mars recèle de multiples dépôts de glace hors des zones polaires et parfois à seulement 1 ou 2 mètres de profondeur, nous révèle une étude parue hier dans la revue Science et qui se base sur des données recueillies par Mars Reconnaissance Orbiter qui a été lancé en 2005 par la NASA. Cette glace, qui paraît relativement jeune, pourrait aussi révéler l'histoire climatique de Mars qui nous reste toujours à élucider.
Le premier nanosatellite du CNRS va être mis en orbite tout à l'heure.
Oui, une fusée indienne doit mettre en orbite dans quelques heures, quelques minutes maintenant, 31 CubeSats, ces fameux nanosatellites d'une dizaine de centimètres de long. Parmi eux, il y a donc PicSat, développé par le CNRS, très peu cher, très simple à concevoir. Sa mission, étudier la jeune étoile Beta Pictoris B.
Et pour terminer, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, une grosse envie de loto, un bon petit sniff et ça va mieux.
Oui, on avait une petite thématique addiction ce vendredi, Nicolas Martin. Hein, voilà, bon, on aime bien. Et bien, des chercheurs finlandais ont annoncé lundi qu'ils allaient lancer une étude unique en son genre pour mesurer l'efficacité d'un spray nasal. C'est un spray nasal contre l'addiction aux jeux de hasard. Vous avez envie de l'auto, vous êtes excité par un cheval qui va courir sur la piste, et là...
Petit grattage.
vous lancez votre
spray, un petit grattage au tabac,
surtout les grattages, les grattages c'est très vicieux. Et bien ce spray contient du naloxone, un traitement d'urgence des overdoses aux opiacés qui permet d'agir sur la production de dopamine. Vous le connaissez, c'est ce neurotransmetteur qui est lié au plaisir et qui semble jouer un rôle central dans les addictions, dont celle du jeu. Ce spray agit en quelques minutes et chaque volontaire, il y en a 130, pourra utiliser son spray pendant 3 mois. La moitié d'entre eux recevra un spray placebo. Donc la question évidemment reste de savoir si ça fonctionnera.
Et avec peut-être la possibilité pour moi de retourner enfin un jour au PMU. Merci beaucoup Zoé Svez, on vous retourne la semaine prochaine.